Bonjour à tous, les controverses du village, épisode numéro 7. Ici Sullivan Le Postec, je suis avec Dominique Monté.
Bonjour.
Et Émilie Flamand.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler de la fiction française. Ça fait en gros 5 ans, 6 ans qu'on est entré dans la crise de la fiction française. Tout le monde en parle et pendant ce temps-là, rien ne bouge. Alors on va essayer de se demander comment faire décoller enfin la fiction française. C'est le sujet de la controverse du jour. Chers amis auditeurs, on a pour une fois un petit peu préparé ce podcast.
Pour une fois, tout de suite.
C'est ça. Et donc, j'ai demandé un peu à Émilie, à Dominique, de me dire un petit peu qu'est-ce qui leurs idées, leurs suggestions par mail. Et du coup, j'avais envie de vous poser une question, parce qu'il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai lu toutes vos suggestions. La moitié de vos propositions, et encore, on tapait probablement vers les deux tiers, c'était il faut imposer ci, faire des quotas de ça, obliger, contraindre, ordonner. Fouetter ceux qui font pas. En gros, c'était ça.
Mettre à mort.
Décapitons directement.
Moi, j'ai une solution, s'ils respectent pas les règles, on leur enlève les publicités. Voilà. Je pense que là, c'est
pire que les tuer.
T'es déjà sanctionné France 2, là.
et donc, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez vraiment que pour faire décoller la fiction française, il n'y a que la contrainte? Est-ce que vous pensez que la France ne pourrait vraiment pas du tout fonctionner par la simple liberté, en fait?
30 ans de mauvaises habitudes. Hélas, il n'y a pas d'autres moyens. C'est tellement rentré dans les esprits et dans les mœurs que je ne vois pas d'autres solutions que, en effet, de leur tordre le poignet en disant « Mais tu vas le faire, dis !» Je ne vois pas d'autres solutions, personnellement. Et je sais à quel point c'est très compliqué de mettre ça en œuvre, parce que ça reste des chaînes publiques, donc ils n'ont pas vraiment à répondre. Mais voilà, au bout d'un moment, si on veut que ça change, il faut changer les règles.
Et puis globalement, il n'y a pas que les mauvaises, enfin il y a les mauvaises habitudes, et puis il y a un aspect bête et méchant de règles économiques sur pas mal de points qui font que de toute façon il y a toujours moyen de justifier une politique en disant mais oui, mais pour l'instant on fait de l'audience là-dessus, pourquoi on en changerait, ou pour l'instant ça nous coûte moins cher et pourtant on a des gens devant, donc à partir de là c'est vrai que ça devient compliqué de dire que voilà, les grilles de programmation sont peut-être pas forcément adaptées à une évolution de la fiction, qu'il va peut-être falloir un jour se poser la question de pourquoi est-ce qu'on est incapable de vendre un de nos programmes à l'étranger, par exemple, et pourquoi est-ce qu'on est les seuls à peu près dans le monde, pas les seuls, mais les trois quarts des gens des pays ont des grilles de programmes avec des cases d'une heure, d'une demi-heure, ce genre de choses, par exemple.
Hérésie! Et je vais me faire un peu l'avocat du diable, je suis pas sûr de le penser moi-même, c'est pour ça que je dis que c'est d'être l'avocat du diable, et en même temps, j'entends quand même cet argument, vous trouverez des gens pour vous dire, et vous argumenter sérieusement, que justement, ce qui a mené à la crise de la fiction française, c'est peut-être aussi déjà des systèmes de quotas et d'obligations, le fait qu'elle était surprotégée. En gros, toutes les chaînes privées, elles sont obligées légalement d'investir tant et donc de tourner de la fiction française. Donc de toute façon, qu'elles entendent de la bonne, de la mauvaise, de la merde, elles sont obligées de le faire. Donc elles le font en traînant les pieds, on n'a rien à faire. Les gens feraient cet argument que si jamais les gens doivent vraiment se battre pour imposer la fiction, ils doivent se défoncer, faire des trucs super bons, il y a une émulation qui se passe, alors que là, de toute façon, le scénariste, il peut écrire de la merde. Mmh. De toute façon, il est déjà, puisqu'il est installé, le scénariste, il sait très bien qu'il y a le quota, la chaîne va lui commander 22 autres épisodes de Julie Lescaut. Pourquoi est-ce qu'il ira se casser la nouille?
Oui, mais la solution derrière, si on n'impose pas de quota, c'est TF1 ne diffuse plus que les experts, M6 ne diffuse plus que NCIS, par paquet de 5 jours par semaine. Donc on n'avance pas. Après, des quotas pour des quotas, c'est complètement stupide, en effet. On va acheter 18 heures de Navarro, puis on sera tranquille pendant un certain temps. Mais des quotas spécifiques, peut-être des directions un petit peu plus poussées, des règles encore plus strictes, ça serait sûrement un bénéfice plus fort que, des simples quotas.
Non, mais globalement, moi, je trouve pas que tu te fais l'avocat du diable, parce que en effet, bien sûr que les quotas ont aidé à pourrir la fiction à une époque. Ouais. Pourquoi ? Parce que les quotas sont nécessaires, ça c'est une réalité. Après, en effet, c'est les politiques, les choix des directeurs de programme, etc., et des chaînes, des lignes éditoriales des chaînes, qui font que les programmes choisis sont pas les programmes qu'on attendait et qu'on espérait de ces quotas. Il y a une question de génération, il y a une question de mentalité. Moi, il y a des choses qui globalement, par rapport à la fiction française, les quotas ne feront pas tout. Les quotas vont pousser à avoir du financement et à peut-être donner une chance à des gens derrière qui ont des projets intéressants de les réaliser. Maintenant, il va falloir qu'il y ait un changement aussi de mentalité. Déjà, en arrêtant de croire que la télé est un sous-cinéma et que du coup, à la télé, on peut faire de la merde. C'est pas grave, c'est la télé. C'est ce qu'on attend. La politique du moins pire, j'en ai ma dose.
Allez, on va commencer à parler un petit peu de ce que nous, on pense qu'il pourrait être bien de faire, quelles pourraient être des propositions, des grandes orientations. J'ai réparti ça en quatre parties, et la première est toute simple, et elle est titrée « Le showrunner, c'est le scénariste ». Bon, alors, on ne va peut-être pas s'étendre 3 heures là-dessus, je pense qu'on on a déjà longuement expliqué au village qu'on pense que la télévision est un média d'écriture et que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail de réalisation à faire, etc. Mais voilà. Mais maintenant, une fois qu'on a dit que le showrunner, ce serait bien que ce soit un scénariste, comment est-ce qu'on fait pour le faire, en fait ? C'est un peu ça la question aussi.
Déjà, le problème à la base, c'est est-ce qu'il existe des cursus universitaires qui permettent de devenir showrunner ? Aujourd'hui, non. Parce qu'un showrunner, ça sait écrire. Ça sait produire, ça sait accessoirement réaliser, ou du moins ça comprend ce que c'est que la réalisation, ça sait caster, et ça sait monter. Or, aujourd'hui, une personne qui fait ces 5 choses-là, c'est soit quelqu'un qui s'est formé sur le tas, soit c'est quelqu'un qui a fait les 5 cursus existants en France.
Donc, il y a à peu près
donc qui commence à travailler à 70 ans, et bonjour pour avoir ses annuités, ça ne va pas être évident. Donc faut prendre le problème à ça, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui un cursus qui permette de devenir showrunner ? Non, donc faut le créer.
Ça semble réalisable, la licence de professionnalisation de showrunner ?
Mais même globalement en France, moi je pense à un autre problème encore plus large que strictement le showrunner, c'est qu'il n'y a pas tant de cursus que ça qui se consacrent à la télé.
C'est sûr.
Moi je suis désolée, pour le coup, même actuellement en formation dans l'audiovisuel, je peux t'assurer que les moitiés, voire plus de mes cours consacrent à du cinéma, alors que les 3/4 des gens vont bosser en la télé. Parce qu'il y a encore cette domination, on est dans un pays où c'est le cinéma, c'est tout. Le cinéma, c'est l'art noble. La télé, c'est pourri, c'est populo, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la télé ? Ça sert à rien.
C'est quand t'as pas réussi à faire cinéma que tu as la télévision.
Tu produis,
dans le collectif... dans l'imaginaire collectif, c'est ça.
T'as le droit de faire... en gros, si tu veux faire la production ciné, faut avoir morflé quelques années à la télé pour en faire. Et en gros, pour travailler chez un diffuseur, faut super bien gérer au niveau économique, quoi. Mais c'est pas forcément, globalement, le côté artistique qui va prédominer. Et globalement, déjà, qu'on forme les gens à la télé, à l'écriture télé aussi, et puis après, globalement, à tout ce que ça implique sur le showrunner. Mais ça, c'est une problématique qui est aussi plus entrée.
C'est une problématique encore plus large, c'est que créer un cursus, oui, ça serait très bien, ça serait parfait, mais faut un cursus qui mène à un travail. Est-ce que ce travail aujourd'hui existe ? C'est le serpent qui se mord la queue. On ne forme pas les gens pour faire un travail dont finalement personne ne veut, quoi.
On est assez vite confronté à ça, c'est-à-dire que le showrunner, on en a parlé maintenant plusieurs fois, enfin, ça fait partie des thèmes récurrents depuis la fameuse crise de la fiction française. C'est quand même dans les yakafos.
Faire une petite musique pour ce...
Polom, polom, poum, la crise de la fiction française. À chaque fois, dans les yakafocons, il y a le showrunner qui revient, mais avec aucune direction concrète en direction de ça. Et les gens des chaînes de télé qui vous disent assez souvent, qui vous regardent, disent « Mais oui, mais vous comprenez, ma bonne dame, de toute façon, même si je voulais un showrunner sur ma série demain, il n'y en a pas des showrunners en France, les scénaristes. Bon, ils ne vous disent pas tout à fait ça, mais ils le pensent très fort. Déjà que les scénaristes ne savent pas vraiment écrire, alors si en plus il faut leur demander de gérer d'autres choses, la production et tout ça, ils vont d'autant moins y arriver. Et là où du coup le raisonnement bloque, c'est que bah oui, mais si tu si enfin si si véritablement tu es sincère et que tu regrettes ça, qu'est-ce qui est mis en place pour lutter un peu contre ça? En pratique, rien, alors que enfin il suffit de regarder encore une fois les modèles étrangers. Ça fait partie des choses sur lesquelles ça peut être intéressant de regarder comment dans le modèle américain les gens sont formés. Vous regardez les grands aussi, ceux qui ont été les grands showrunners, c'est les gens qui prennent leurs scénaristes et les impliquent directement dans tout le processus de leur épisode. Moi, enfin, aujourd'hui, tout le monde adore Vince Gilligan qui fait Breaking Bad. Moi, j'étais fan d'X-Files il y a 15 ans. J'ai vu Vince Gilligan débuter sur cette série-là. Et je me rappelle, enfin, justement, le fonctionnement d'X-Files, c'était le scénariste, il écrit son épisode. Et du coup, il va sur le tournage de cet épisode. Et du coup, il va dans la salle de montage sur son épisode. Et c'est le producteur exécutif, le showrunner, qui a le final cut, etc. Mais le scénariste de l'épisode, il a été associé à tous les processus de production de son épisode. Il a tout vu. Et à force, il en écrit 2, 3, 4, 5 épisodes. Et il commence à vraiment avoir la main. Et il a bossé 7 ans sur X-Files, Gilligan. C'est comme ça qu'il est devenu showrunner. À la fin d'X-Files, il était producteur exécutif, il était co-showrunner d'un des spin-offs d'X-Files qui s'appelle Young Gunmen, et en 5-6 ans, il avait appris tout ça, il avait appris à caster, à mettre en scène, à avoir un œil sur le montage, enfin à gérer le montage, à savoir gérer un final cut, etc. Aujourd'hui en France, le scénariste, il écrit, il voit quasiment jamais le début de la porte d'une salle de montage. Faut pas envisager qu'on lui demande son avis sur le casting. Donc, enfin, tant qu'il y aura pas une implication, le showrunner, il va pas émerger par génération spontanée, quoi.
Et puis globalement, il faut peut-être falloir se poser. Il y a déjà un autre point, c'est que pour les trois quarts des gens, l'auteur de la série reste le réal. Bon. Est-ce qu'on revient sur le sujet ou pas?
Faut appeler les magazines télé qui mettent une série d'eux et puis regardent le nom du réalisateur et puis mettent le nom du réalisateur.
Au FIFA, on en parlait avec les Anglais qui disaient que voilà, eux à la télé, c'était l'auteur qui était mis justement, c'était le scénariste qui était mis en auteur directement dans les crédits au niveau des programmes, etc. Alors qu'au cinéma, c'était pas le cas. En France, c'est pas compliqué. Ce qui se passe au ciné, se passe à la télé. Parce que comme d'habitude, c'est le ciné qui dicte tout. Et le réal, en tant qu'auteur de la série, oui, si c'est lui qui a écrit aussi les trois quarts du truc, ok, quand ils doivent faire les deux, parce qu'en gros, t'es obligé de faire les deux si tu veux être considéré réellement comme l'auteur.
Et quelle place pour les fameux réalisateurs dans cette nouvelle télévision française où le showrunner est le scénariste?
Alors, je vais pas dire. Alors, j'avais vu dans un documentaire sur NYPD Blue que, comment dire, il disait Paris Barclay, qui est quand même un grand réalisateur de séries, disait que son travail c'était de dire où se positionnait la tasse de café sur la table. Alors c'est un petit peu exagéré, mais c'est la façon dont ils abordent le travail là-bas, c'est que ce sont des techniciens, avant tout. Mais est-ce que ça enlève leur dimension artistique? Moi, je suis absolument pas sûr de ça. Enfin, c'est identifiable quand même le travail d'un réalisateur par rapport à un autre. Donc s'asseoir sur « je suis un auteur d'abord, mais plutôt avancé, je suis un technicien, un grand professionnel et on me fait confiance » et j'apporte ma touche à un épisode, je pense que c'est ça la valeur ajoutée d'un réalisateur sur une série télé. C'est je viens, je suis dépendant du travail de l'auteur, je travaille avec l'auteur et sous sa supervision, et j'apporte ma vision, j'apporte mon enthousiasme et j'apporte ma force. C'est pas un technicien, voilà, c'est pas un technicien, c'est pas l'auteur pour autant, c'est un mixte entre les deux. Mais pour moi, ça doit se faire comme ça. Faut pas non plus leur enlever toutes leurs prérogatives, ça serait complètement idiot. On se retrouverait à ce qu'on se retrouve avec les scénaristes aujourd'hui, c'est-à-dire on transposerait sur les réalisateurs, ce qui serait une hérésie. Mais je pense que ça serait la combinaison la plus réussie possible. Mais ça revient toujours à dire qu'il faut un poste de showrunner au-dessus.
Il y a un truc dont j'entends de plus en plus souvent parler en France ces dernières années, même peut-être même plutôt ces derniers mois, c'est l'idée de vraiment réussir à créer en France, en fait, deux niveaux de réalisateurs, un peu comme ça existe aux États-Unis, en fait, quelqu'un comme David Nutter, qui est dans la A-list, c'est un réalisateur de pilote, en fait. Donc, son métier, c'est créateur de la Bible visuelle d'une série. Et ensuite, il y a d'autres réalisateurs qui sont justement plus des techniciens,
qui vont
réaliser, en fait, les autres épisodes, les épisodes 25, 50 et 182. Mais voilà, en s'inscrivant dans la Bible qui a été posé au départ par le pilote, mais ce qui n'empêche pas d'ailleurs, effectivement, comme tu le pointais, d'apporter leur propre voix et leur propre dans une certaine mesure leur propre style. Enfin, effectivement, mmh. En tout cas, sur les bonnes séries américaines, on voit clairement le réalisateur de l'épisode, c'est certain. Et du coup, avec ce que ça implique aussi au niveau des droits, les fameux réalisateurs de la liste aux États-Unis, ceux qui ont réalisé le pilote, ben, ils touchent un petit pourcentage sur tous les autres épisodes qui vont suivre
comme
après.
Comme la notion de scénariste sur la Bible.
Exactement, voilà, ils ont participé à la création de la Bible visuelle, en fait. Et donc, du coup, ça revient à créer deux niveaux de réalisateurs. Un réalisateur un peu plus artistique, impliqué à la création de la série, et un réalisateur technicien, ce qui, encore une fois...
ça n'a rien de péjoratif, en
voilà,
plus,
je sais qu'aux oreilles, ça sonne péjoratif à l'oreille des gens.
Artisan.
Ouais, là, je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour les réalisateurs et leur travail, je trouve ça... C'est magnifique, mais ça n'a rien de péjoratif.
Et puis bon, il faut quand même l'admettre, même si les télés sont de plus en plus grandes, tu ne peux pas te permettre de faire le même type, tu ne peux pas t'éclater, à mon avis, comme pour un réel, de la même façon. C'est un exercice différent, la télé et le cinéma. Donc au bout d'un moment, il faut quand même admettre que quand tu réalises pour la télé, en effet, tu es dans un autre élément. Et que tu vas pas non plus, tu vas pas surcharger ton truc avec une réelle trop compliquée, trop chargée, trop. Le but c'est que ce soit tes persos qui ressortent, que ce soit ton intrigue qui ressorte, donc derrière ça reste du coup forcément le scénario.
Ça soulève deux problèmes, c'est que un, on crée deux postes qui n'existent pas aujourd'hui, un showrunner et donc un réalisateur bis ou technicien ou ce que vous voulez. Et l'autre problème, c'est qu'à ce réalisateur-là, on lui dit « au fait, tu sais, les droits d'auteur qui sont acquis depuis des années pour les réalisateurs, bah, tu t'assois dessus parce que c'est le réalisateur qui a réalisé le pilote qui va les toucher. » Et là, tu te heurtes à un mur.
C'est là qu'on... Et ça rejoint aussi la question du showrunner, hein, parce que ça est à peu près dans les mêmes problématiques. Dans quelle mesure est-ce que notre mode de financement des artistes travaillant pour la télévision, c'est-à-dire des scénaristes ou des réalisateurs... sont-ils adaptés ou sont-ils un frein ou quasiment un verrou pour ces évolutions enfin, en gros, est-ce que notre système de droit d'auteur n'est pas tellement caduque qu'il empêche toute évolution
de toute façon, un réalisateur, à moins qu'on prouve le contraire, sera toujours considéré comme un auteur. En gros, il y a quelques catégories qui sont en gros une liste qui sont par défaut considérées comme auteurs, sauf si on prouve le contraire, et après, c'est les autres. T'as d'autres postes, dans ton film ou dans ton épisode de série, etc., qui peuvent, si tu montres qu'il a apporté une forme originale à ton œuvre, vont être considérés comme auteur. Mais globalement, le scénariste, le réalisateur, c'est forcément un auteur. Donc à ce titre-là, il est considéré comme auteur, il va toucher des droits d'auteur. Maintenant, après, c'est les proportions.
Cette différenciation, elle existe déjà au cinéma, quelque part. Bon, après, c'est sur le même film. C'est réalisateur première équipe, réalisateur deuxième équipe. Sur les films à très gros budget, je pense pas que le réalisateur deuxième équipe touche des droits d'auteur. C'est juste un technicien, un excellent professionnel qui est là pour faire ce que n'a pas le temps de faire humainement le réalisateur principal. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de transposer cet état à la télévision après.
Après, l'un des problèmes aussi, par exemple pour l'écriture, c'est que l'écriture d'un épisode de 52 d'une série, surtout une série un peu longue, c'est pas très bien financé en fait. Donc si on est scénariste et qu'on travaille que de ça, on écrit des épisodes, on ne gagne pas des milliers des cents. Donc si logiquement on va se faire réécrire par le showrunner, parce que c'est normal, le scénario doit être au moins lissé en général, bien retravaillé par le showrunner. Mais si, en fait, du coup, le seul moyen de financer le showrunner, c'est de lui filer la moitié des droits de l'épisode, parce qu'il n'est pas salarié à l'année comme un showrunner américain, du coup, le scénariste indépendant, enfin le scénariste de bas niveau, il travaille toute l'année, mais il touche plus que la moitié des droits des épisodes avec lesquels c'était pas déjà dit qu'il vivait. Donc il y a quand même vraiment un problème de financement à ce niveau-là, qui est un problème de revalorisation de la création.
Est-ce qu'il ne faudrait pas revaloriser aussi à la base les grilles de salaire des auteurs, tout simplement, sans parler des droits d'auteur, justement, si on réduit les droits d'auteur, il faut augmenter les salaires.
Les droits d'auteur, par principe, ils ne sont pas extensibles non plus, quoi.
Je ne sais pas jusqu'à combien de rediffusions de...
En fait, ça va dépendre à chaque fois. Tu vas récupérer de toute façon, tu vas avoir un pourcentage de l'argent qui va être touché. Mais un pourcentage, au total, c'est 100, au mieux. Donc, de toute façon, tu ne pourras pas aller au-delà. Donc, tu redistribues tes parts. Après, forcément, il y a une part qui va à la prod, etc. Mais tu vas pas non plus pouvoir étendre. Plus tu vas diviser, plus tu vas mettre des gens dedans et tu vas multiplier les parts, forcément, plus ça va réduire.
Après, le truc, c'est qu'on est dans un système qui, économiquement, favorise énormément le gros succès. En gros, si vous écrivez un jour une série qui a un méga succès, qui est rediffusée plusieurs fois et qui est rediffusée plein de fois sur la TNT, en gros, vous avez écrit un jour 6 épisodes dans votre vie, vous pouvez plus travailler jusqu'au restant de vos jours, parce qu'avec les droits résiduels qui tombent, ben, moi j'ai entendu parler plus d'une fois d'une scénariste qui avait écrit un super téléfilm qui avait énormément marché, qui était énormément rediffusé, et où chaque année, limite, il en vivait, quoi. Et à côté de ça, du coup, on est dans un système qui favorise vachement le succès, mais toutes les séries ou tous les projets peuvent pas être des succès, assez logiquement. Il y a plein de prods voilà, qui vont être diffusés et puis qui vont un peu plus disparaître. Il faut quand même pouvoir vivre de ce flux-là, quoi.
Tu commences quand même à avoir dans ce type d'économie, c'est pas une généralité, mais ça devient plus fréquent, un système de minimum garantie qui fait que, en gros, on considère que voilà, on attend tel succès à peu près, on va payer directement tant, et ça représente tant de tes droits d'auteur jusqu'à un certain montant, en gros. Et si jamais ça fait plus de succès, bah, tu vas retoucher des droits d'auteur en plus, tu vas retoucher et moins. Donc tu as quand même maintenant un minimum garanti souvent qui on va dire, fixe une base, mais ça reste une partie de tes droits d'auteur.
Mais après, c'est une carotte virtuelle qui agite les producteurs. C'est, tu vas avoir des droits d'auteur dessus. Si le téléfilm se plante et fait 300 000 personnes le soir, il ne sera jamais rediffusé. Tes droits d'auteur, c'est terminé.
Et sachant, oui, un autre point qu'on n'a pas trop abordé, c'est que du coup, on a une pénalité extrême au développement qui ne se concrétise pas. Parce que si vous avez écrit, et ça arrive plein de fois à la télé française, une saison complète, et que finalement, la chaîne, elle regarde les... au mieux 6, voire 20 épisodes qui ont été écrits et dit « Non, mais finalement, j'ai pas envie de le tourner, ça me plaît pas. » Ben, vous avez bossé 1 an, 2 ans, et vous touchez genre des cacahuètes, hein, parce que les droits d'auteur, c'est à la diff.
Est-ce qu'il faudrait pas tout simplement les supprimer et puis revaloriser les salaires plus haut, quoi? Mais après, est-ce qu'une grève des scénaristes en France, ça aurait le même impact qu'une grève des scénaristes aux États-Unis? Non.
Non. Pour être clair, même déjà, quand tu vois que déjà on a un système qui est en gros dirigé par les diffuseurs plutôt que par les producteurs. Donc à partir de ce moment-là, déjà les producteurs ont peu de levier. Et derrière, quand tu vas au niveau scénariste, on a déjà dit que le scénariste, déjà, il était souvent considéré qu'en dessous du réel. Donc pour quand tu arrives au niveau du scénariste, le scénariste qui commence à t'enquiquiner, ouais, tu vas gentiment, rapidement te moucher, lui rappeler « Eh mon coco, t'as un loyer à payer, tu t'as pas gagné des cacahuètes l'année dernière, t'es gentil, donc tu vas venir réécrire tes trucs, tu vas arrêter ta petite crise, je sais bien qu'on est en France et que c'est les grèves, t'as qu'à me faire un épisode là-dessus. Allez hop !» Puis voilà, non mais sérieusement, c'est
pas viable. Tu es un monstre.
Allez, on attaque la deuxième partie. Côté
obscur, que veux-tu ?
Deuxième sujet de discussion, j'ai appelé ça un peu lyriquement, un peu de darwinisme pour les producteurs. Ce que je veux dire par là, en gros, la théorie de Darwin, c'est si vous êtes le plus fort, le plus adapté au milieu, vous survivez, vous reproduisez, vous vous multipliez, vous développez. Et puis, si au contraire vous êtes inadapté au milieu, vous disparaissez et c'est un peu comme ça. Alors, si on pousse ça, ça peut être un espèce de libéralisme de loi au plus fort qui peut être un peu extrême et un peu dégoûtant. J'ai quand même le sentiment qu'en France, au niveau de la production télé et des producteurs, on est carrément dans l'extrême opposé. C'est-à-dire qu'on va bien faire attention à tout le monde, il ne faudrait pas qu'il y en ait qui aient des difficultés. Sauf que du coup, on a des producteurs qui sont tous super fragiles, qui sont tous super faibles, et qui n'ont aucun pouvoir pour défendre leurs projets, leurs auteurs. Et alors, par quoi commencer pour pouvoir corriger ça? Est-ce qu'il faut...
Moi, je suis pas si... Enfin, moi, c'est ce que... on en discutait un peu avant... Moi, je ne suis pas déjà si convaincue que ce soit une mauvaise chose qu'on ait autant de producteurs et qu'on ait des petits et des gros. Dans le sens où on est sur un secteur où il y a énormément. Je crois qu'il y a quelque chose comme 180 sociétés de production qui font de la fiction.
Et c'est genre trois fois plus qu'en Grande-Bretagne,
trois fois plus qu'en Allemagne.
Alors que j'ai trois fois plus de producteurs qu'en Grande-Bretagne, alors qu'en heure de fiction, ils en produisent trois fois plus que nous, donc il y a un gradient de...
En plus, c'est des modèles de maisons de production, pour la plupart, qui sont exsangues, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la fiction, mais pour joindre les deux bouts, ils vont faire du peut-être pas du documentaire, parce que c'est pas...
C'est pas là où fait vraiment de la marge, le docu, non plus.
Non, non
plus,
mais c'est pas non plus un fanant.
Mais ils vont faire des médias training, ils vont faire des trucs complètement stupides pour joindre
des deux bouts à la fois. Un peu de film d'entreprise.
Exactement, bah voilà. Et ça, par contre, je suis pas persuadé qu'ils aient vraiment de passion à faire des films d'entreprise sur comment utiliser une
tourneuse fraiseuse. Non, mais globalement, pourquoi est-ce que t'en as autant ? Pourquoi tu as autant de sociétés de prod aussi? C'est parce qu'il y a beaucoup de sociétés de prod qui se montent autour d'un projet. C'est-à-dire que les gars ont un projet, qui se font jeter par d'autres prods, et qu'au bout d'un moment, à force de se faire jeter, ben, ils se disent ben, écoute, on va le tenter, parce que moi je suis sûr quand même que ça peut faire quelque chose. Et ils montent une boîte de prod pour porter leur projet. Et c'est leur façon de pouvoir aller jusqu'au moins au diffuseur et tenter leur chance au diffuseur.
Mais il faut aller encore plus loin que ça. Il faut aller encore plus loin que ça. Il faut créer des unions entre certaines petites boîtes de prod. Et bah, plutôt que de tirer tous sur des projets différents, bah, tu unis une dizaine de boîtes de prod qui forment un gros conglomérat de boîtes de prod qui est capable de dire merde à un diffuseur qui dit « Changez-moi ça, je veux plus cette fiction dans un milieu urbain, je veux que ça se passe à la campagne avec un médecin de campagne. »
Et votre personnage masculin, en fait, une héroïne avec des gros seins si possible. D'ailleurs, je verrai bien Claire Quin pour le casting. Oui, mais non. Ou Ingrid Chauvin. Et là, pouf, nous venons de recevoir 15 mails d'insultes. Pour dire les choses aussi, il faut quand même dire que ce phénomène de concentration chez les producteurs, il est bien amorcé depuis quelques années. Simplement, je sais pas, enfin, donc il y a plein de petits producteurs qui sont rachetés par des gros. On voit des gros groupes se former autour de Lagardère. Il y a le groupe Tel France, il y a plein de choses. Après, j'ai pas l'impression que ça se passe forcément de la très bonne façon, parce que c'est en fait, c'est une espèce de holding qui rachète les petites structures, mais les petites structures elles continuent d'exister de façon indépendante, c'est-à-dire ce qui sous-entend aussi que elles doivent toutes être autosuffisantes et équilibrer leur budget, ce qui veut dire qu'on n'a rien pas corrigé au problème du départ, parce qu'on a des tas et tas de petites structures qui vivotent en produisant un téléfilm par an, ce qui fait aussi que du coup notre production télé elle est complètement portée sur l'unitaire et qu'on tourne des centaines d'unitaires par an alors qu'on devrait en tourner 15. Parce que aussi c'est comme ça qu'il faut donner qu'on donne à bouffer à toutes ces boîtes de prod, et donc elles arrivent là devant le bureau du théâtre de la fiction, s'il vous plaît monsieur, si vous ne me commandez pas le téléfilm là, je mets la clé sous la porte, je vire 3 employés, on n'aura rien à manger à Noël. Et donc là forcément le directeur de la fiction dit bon ok, je vous commande mon téléfilm, mais vous m'engagez Ingrid Chauvin, etc. Et le producteur, ok Ingrid Chauvin, je la signe.
On est en train de mentionner Ingrid Chauvin comme la transgression ultime de tout créatif.
Comment foirer sa fiction télé. Embaucher Ingrid Chauvin.
Ouais, il y en a un autre qu'on peut mettre en face comme rôle principal masculin.
Oh bah, on fait un bon combo avec Bruno Madinier.
Voilà, tu reprends.
Mais ça a obligé déjà existé en plus, ils ont déjà dû le faire.
Je suis à peu près sûr.
Oui.
C'est obligé.
Mais c'était pas Dolmen.
Si, exactement.
Dolmen, voilà.
Et voilà.
Le summum de le...
Preuve qu'on ne voit pas tout.
moi j'avais vu un bout qui m'avait beaucoup fait rire.
Bref, oui. Et ça doit aussi... c'est toujours pareil, c'est bien beau de dire il faudrait qu'il y ait moins de producteurs, comment est-ce qu'on s'y prend
Non, pas avec la Kalachnikov, ce n'est pas une solution.
Non, je ne suis pas un violent, c'est pas
c'est
quoi.
C'est une solution, ce n'est pas la meilleure.
Ce n'est pas une bonne solution.
C'est une solution.
Mais il y a une grosse perversion du système actuellement, qui est que quelqu'un a décidé un jour que puisque France Télévisions était un gros public, il devait dispatcher de l'argent chez un peu tout le monde. Donc du coup, vous vous retrouvez dans la situation où vous êtes un super bon producteur. Vous investissez dans la création, vous savez produire vos séries. Parce que, honnêtement, on a plein de gens qui s'appellent producteurs en France. Quand on voit les produits finis, bref. donc vous investissez dans la création, vous savez faire du développement, vous savez vraiment produire, vous livrez des bons produits. Et donc du coup, vous avez signé 2 séries chez France Télé. Vous en avez une qui passe sur France 2, une qui passe sur France 3. Et vous avez un scénariste et vous avez un super bon 3e projet. Vous allez le pitcher à France Télé. La France Télé vous répond « Ah mais non, mais désolé, toi si tu veux, on a déjà une série chez France 2, une série chez France 3. T'as fait ton quota, on peut plus rien te signer. » Et donc du coup, le rendez-vous d'après, c'est un scénariste moins bon qui produit que des merdes avec un projet moyen. Mais comme il n'avait pas déjà une série signée chez France Télévisions, lui, on va lui prendre son projet. Donc on est dans une prime à la médiocrité, en fait. Si vous êtes bon, vous n'êtes pas récompensé, vous ne travaillerez pas plus. C'est un système dément, quoi.
Ce qui fait que quand tu es auteur, tu as des places très limitées en termes de sortie. Si tu envoies ton projet à Tetra Media ou chez Kappa ou compagnie, Kappa te refuse. Il te refuse peut-être pas parce que ils ont pas du tout envie de faire ton projet, mais ils te refusent aussi parce que quelque part ils ne peuvent pas le faire de toute façon. C'est complètement surréaliste.
Ouais. Enfin, là, moi, je vais encore me faire le côté obscur de la force, quoi. C'est, si tu veux, oui, d'accord, bien sûr que du coup, tu limites un peu, tu équilibres, etc. Mais en même temps, c'est comme tout est à double tranchant. On parlait tout à l'heure des quotas qui, du coup, provoquaient aussi le fait qu'on avait acheté plein de fictions, qu'on aidait à produire plein de fictions de merde. Là, on est dans le même principe, c'est-à-dire que tu dis un bon producteur qui sait faire de la bonne série, il se retrouve coincé sur le nombre. En même temps, ça empêche que certains producteurs qui font de la merde n'en fassent encore plus.
Là, je pense qu'ils en feraient moins, du coup. Parce que si Capadrama a 10 séries diffusées dans l'année, c'est autant de moins pour ceux qui ne savent pas produire.
Ouais, mais déjà, ça voudrait dire qu'il faudrait que les diffuseurs soient tous super motivés sur les séries de Capadrama.
Bah, si elles sont bonnes,
après...
Il y a aussi si c'était un critère, il y aurait beaucoup plus de bonnes fictions aussi en France. Hein.
Mais à partir du moment où t'as plus ces maisons de production, les pauvres qui vivotent plus qu'elles ne vivent et qui sont obligées de faire de baisser leur froc continuellement pour pouvoir survivre, si t'as plus ces maisons de production-là, tu te retrouves face à un géant comme Capadrama ou Tetra Media ou compagnie, hein, je fais pas de sélection, mais je pense qu'elle se fait naturellement quelque part. C'est plus difficile pour un diffuseur de dire vous me changez tout, vous me faites ça différemment, je veux pas. Si Capadrama retire ses billes, il se tourne vers qui?
Il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est profiter des succès qui existent en place. Économiquement, industriellement, c'est absolument ahurissant, injustifiable qu'il n'y ait pas déjà eu au moins une et un série dérivée de Plus belle la vie. C'est invraisemblable qu'ils auraient depuis longtemps dû faire un spin-off du commissariat en faisant une série policière de prime time. Ils auraient dû faire d'autres trucs. Sur Regarde les Sopuquets, ils ont fait, je sais plus lequel, Coronation ou Eastender, un des deux, ils ont fait une déclinaison jeune où ils mettent en avant les jeunes personnages. Il devrait y avoir eu au moins un et probablement plus spin-off de Plus belle la vie. Et alors je sais que, enfin, il y a plein de gens qui n'aiment pas Plus belle la vie. Moi, je continue de penser ça reste de la production de qualité une fois qu'on prend en compte que c'est du daytime et que de la quotidienne et que produire 5 épisodes par semaine, c'est quelque chose de particulier et que vous ne pouvez pas comparer ça aux Sopranos si vous voulez.
Peux essayer, ça peut être très bon. Hein.
Ouais. En profitant d'un succès comme ça, tout simplement France 3 pourrait faire de l'audience, pourrait gagner de la thune, à réinvestir ensuite dans d'autres choses, quoi. Et la seule raison pour laquelle il n'y a pas eu de spin-off de Plus belle la vie, c'est parce que, vous comprenez, déjà qu'on commande, qu'on signe un chèque de 30 millions à Telle France chaque année, il est hors de question qu'on leur commande un autre truc.
Et à côté de ça, la solution qu'on trouvait, le truc qu'on crée en effet le boule de neige, c'est qu'au contraire, toutes les autres chaînes se disent « il nous faut notre Plus belle la vie », et ça a donné autant de productions qui se sont cassées la gueule derrière. Alors plutôt que de capitaliser sur un succès, on essaie de le copier ailleurs, il n'y a pas de logique là-dedans.
Bah, après...
On s'est dit, il devrait y avoir au moins deux ou trois autres Sopes quotidiens en France.
Ouais. Ce qui est assez contradictoire aussi, c'est qu'en même temps, pourtant, il y a le système d'aide qui existe, de subventions, etc., est plutôt en faveur des sociétés en place et qui produisent des choses qui ont au moins eu du succès, qui ont au moins été jusqu'à être diffusées et donc ramenées un peu, etc. Parce que quand tu regardes les subventions nationales, soit quand t'as jamais rien produit, t'as une subvention sélective, donc déjà tu passes quand même un cran sur le dossier, il faut que t'aies déjà des choses en stock et que t'aies eu un compte au CNC et que tu récoltes des sous, etc., pour pouvoir avoir de la subvention automatique. Et au niveau même européen, quand tu regardes, il y a aussi un système qui permet, en gros, il y a les subventions unitaires, et encore, t'as besoin de montrer un peu ce que t'as fait avant, et t'as aussi les systèmes à plusieurs développements en parallèle. Quand tu expliques que t'as trois développements en parallèle dans ta boîte, tu peux avoir des subventions pour ton développement parce que justement, tu industrialises ce process. Donc, dans un sens, il y a déjà des politiques qui favorisent. Après, le problème, il reste toujours au niveau du diffuseur par rapport à ce que tu dis aussi, par rapport à une politique du diffuseur.
Parce
même
que pour
si
avoir
derrière...
trois développements en parallèle en France, quasiment, on va réussir quand même trois chaînes différentes.
Trois développements, ouais, voilà, non, mais trois développements, après, à quel stade t'en es de tes développements, hein, c'est ça aussi. C'est clairement, tu n'es pas déjà forcément à. à la commande ou avec des préachats, etc. Hein, tu n'en es pas à la coprod. Mais tu peux déjà lancer avec un projet qui est parti, et tu en as deux qui sont en stade de développement, tu peux déjà t'orienter vers ça quand tu as déjà eu des projets. Donc tu as quand même déjà une politique qui tend à dire qu'on va essayer de consolider. Maintenant, ça n'en est pas non plus au stade de faut limiter le nombre de réussir à limiter naturellement le nombre de sociétés de prod, clairement, parce que ça reste dans la théorie de la diversité de la production, ça reste une des sources.
Oui, mais la diversité, tu le retrouves aussi au cinéma, c'est ça qu'on a plus de 150 films français par an, dont méchant, mais 120 inregardables.
Ah, mais c'est tout à fait méchant, c'est ce qu'on appelle les films du milieu, et c'est totalement ça.
C'est tout à fait une logique cinématographique.
Et c'est pas les pires, ceux-là. Les pires, c'est pas... En fait, t'as les deux extrêmes. T'as les tout pourris dont on parle, t'as les très bons, et t'as tous ceux qui sortent dans très peu de salles, et qui sont globalement pas mal, qui se rentabilisent quand même. Enfin, ils s'en sortent parce que c'est pas des budgets démentiels, et que du coup, ils en font qu'un dans la boîte de prod sur l'année, et qu'ils arrivent à peu près à boucler leur budget et à rentrer dans leurs frais sans faire trop de marge, mais à survivre jusqu'à l'année suivante et à refaire un. Mais voilà, et tout ça, c'est... Mais en même temps, c'est un risque.
C'est un risque, mais tu crées, en fait, un milieu qui est complètement... Enfin, c'est ubuesque, où tu n'as pas de formation et tu donnes l'impression que c'est hyper facile d'y rentrer parce que tu as énormément de débouchés, ce qui est totalement faux. Alors que tu formerais, tu aurais une élite de formés, tu aurais moins de films derrière, il y aurait une hausse de qualité, que ça soit pour le cinéma ou pour la télévision, c'est pareil, que tu n'as pas aujourd'hui. Alors la diversité, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, oui, la sélection naturelle, c'est triste à dire, mais il faut bien que... Les personnes qui vont sortir un film parmi les 150, ça va être leur seul film de leur carrière, parce qu'ils n'auront pas eu de succès, et derrière, ils ne pourront jamais vendre un deuxième, c'est catastrophique pour eux. Enfin, moi, je ne sais pas, mais...
Mais en même temps, si tu n'avais pas toutes ces boîtes, tu aurais beaucoup moins de premiers films, tu aurais beaucoup moins... Dans un sens...
Oui, mais combien de premiers films font un deuxième film?
Après, la question reste aussi sur les distributions, etc. Je suis d'accord.
Moi j'aimerais derrière, autant que la moitié des mecs qui font des premiers films et qui en fait sont pas des super bons réalisateurs qui n'ont aucune légitimité à porter des films de cinéma, ils aillent bosser à réaliser des épisodes de séries télé qui seraient sûrement vachement mieux faire que des premiers films.
Oui, parce que après,
parce que c'est peut-être des bons techniciens de la réalisation, c'est pas dit qu'ils sachent porter un projet créatif de A à Z.
Globalement, bon là on avait décalé sur le cinéma, mais globalement tu retrouves les mêmes problématiques.
Mais t'as les mêmes problèmes à la télévision.
C'est ce que je commençais tout à l'heure, cette histoire de favoriser la diversité en favorisant 20 milliards de sociétés de production, c'est une logique complètement cinématographique, qui est considérer la production audiovisuelle comme complètement artisanale, ce qui est vrai au cinéma, mais ce qui est pas une logique applicable, encore une fois, à la télévision. Donc on voit bien qu'on applique, encore une fois, un système qui est issu du média cinéma à la télévision et qui fait dérailler le truc. Encore une fois... Aussi, on regarde l'autre côté de la Manche et on va regarder un petit peu une boîte de prod comme Kudos qui tourne, mais de la série, ils font 3, 4, 5 saisons différentes de séries par an. La BBC leur commande à tour de bras et ils savent que quand ils commandent à Kudos, ce sera bien produit. Le truc sera plus ou moins bien, mais en tout cas, ils ont un truc nickel, propre, exportable, propre. Voilà. Et voilà, et c'est clair, une boîte comme Kudos, elle ne peut pas exister en France. C'est impossible.
Non. Ah non,
c'est un problème.
Non, oui, c'est un
mais,
problème.
Mais là, tu repars de toute façon sur toute la problématique globale, sur les politiques globales. Sur,
non, mais ce qu'on disait, bon, on a dévié sur le cinéma, mais limite, oui, en effet, ça peut être applicable au cinéma, vu en plus notre historique cinématographique en France. Le fait qu'aujourd'hui, tu en aies 150 par an qui sortent, bon, c'est en soi, c'est...
Enfin, 180
cette année. 180, bon... Pff, oh là là. C'est extrêmement surprenant, mais en même temps, après, il faudrait voir sur les 180, il y en a combien qui s'exportent, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais autant tu peux avoir cette logique un petit peu éthérée, arty, c'est du cinéma, faut que tout le monde ait sa voix, autant à la télévision, si tu n'industrialises pas, c'est une erreur capitale.
Mais déjà, enfin, la notion d'industrialisation, je suis d'accord avec toi, le problème, c'est que même les diffuseurs ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que quand tu expliques à un diffuseur que s'il s'acharne à faire du 90 minutes ou des séries en 6 épisodes et pas plus, il va jamais réussir à faire quelque chose, à le vendre à l'extérieur de la France, tu lui expliques ça, le diffuseur s'en tamponne actuellement. Il n'a pas cette notion.
Bah,
il a pas cette notion du tout.
Mais oui, mais c'est vrai, mais ça se justifie très, très simplement. Le diffuseur, il n'a rien à gagner. Ça rejoint le prochain point que j'allais développer. Le diffuseur, il a strictement rien à gagner à ce que le truc s'exporte. puisque de toute façon il paye à lui tout seul en gros 95% de la fiction, et le producteur il va péniblement réussir à rassembler 5% en allant taper le CNC et la région Trucmuche où le truc sera tourné, mais 100% de l'argent de la fiction c'est le diffuseur qui le file et qui le rentabilise par la pub. Or si le truc s'exporte, ça va aller dans la poche du producteur.
Non, parce que tu peux avoir du préachat, tu peux avoir des choses comme ça aussi, hein. Tu peux avoir des chaînes étrangères qui vont financer en partie en achetant dès le départ. On n'en est pas là en France, clairement. Oui, c'est ça. Parce que déjà, non, mais pourquoi on n'en est pas au préachat ? Parce qu'on n'est même pas capable de vendre. On n'est même pas capable de le vendre d'après. À part
Engrenage, il n'y a aucun autre exemple.
Ah non, mais même Engrenage...
Si, il y a Sous le Soleil.
Oui, non, mais pourquoi Sous le Soleil ?
Ce podcast s'arrête maintenant.
Non, question. Pourquoi Sous le Soleil se vend ? Voilà, t'as un nombre d'épisodes incroyable.
Parce que c'est glamour,
ça. Et parce que n'importe où.
Mais ça se vend où, Sous le Soleil ?
Ça se vend partout.
C'est la série la plus exportée de France.
Mais ça, c'est en Angleterre, on est d'accord.
Mais en Angleterre, c'est la même question. N'importe où, quand tu vas aller dans un autre pays, est-ce qu'ils vont te le diffuser en prime, ta série française ?
Ah, bah bien sûr que non.
Non, mais globalement. Même nous, les pauvres séries britanniques, alors qu'elles sont excellentes, on galère déjà à les avoir à des horaires décents et sur des bonnes chaînes. Donc derrière, globalement, tu vas avoir la problématique.
15h30 le mardi, c'est pas une bonne, c'est pas un bon horaire. Pas
de quoi est-ce qu'on parle ? Mais globalement, tu vas avoir cette problématique-là. Tu vas toujours favoriser la fiction au départ de ton pays. Après, tu vas te faire pirate, tu vas te faire bouffer par la fiction américaine en plus. Et donc, les fictions autres, elles vont venir combler les petites caisses de merde qui vont avoir la ménagère, en gros, le matin à 10h, dans l'après-midi, parce que j'ai 4 heures de programme à boucler. Et donc, qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans ? Tu vas pas foutre 6 pauvres épisodes qui se battent en duel. Tu mets du nombre.
Après, il y a... Il y a encore, sur le sujet des prods...
Et des blondes au soleil, ça se vend.
Sur le sujet des prods, il y a encore une autre question qui est encore peut-être plus polémique que la réduction du nombre de producteurs.
Ça devient RMC, ici.
Il a choisi la bonne place, le Sullivan.
Il y a eu un gros choix industriel, plus ou moins, qui a été fait il y a des années, qui a été de dire il faut que toute la production soit indépendante. C'est-à-dire que France Télé, notamment en termes de fiction, a pas le droit d'autoproduire en fait.
Ah, mais alors aucune chaîne.
Bah, aucune chaîne, effectivement. Soyons pas caricatural, je ne prône pas la disparition totale de tous les producteurs indépendants. Par contre, je pense qu'arriver à un total de 0% d'autoproduction à l'intérieur des chaînes, c'est de la folie. La BBC, elle autoproduit Doctor Who. Grâce à ça, elle se fait, elle se fait énormément d'argent et ça l'aide aussi à produire d'autres choses, quoi. C'est une folie totale que France 3 soit pas directement producteur de Plus belle la vie. Parce que c'est France 3 qui a pris tous les risques dans ce truc. C'est eux qui ont aligné toute la thune, c'est eux qui ont fait le chèque de 35 millions la première année, etc. Encore une fois, ils ont pris tous les risques, ils ont été super impliqués créativement. Les mecs de la fiction de France 3, ils ont énormément bossé sur le contenu créatif. Et Plus belle la vie, ça leur appartient pas. N'importe quel requin qui prend la tête de Telle France peut décider au prochain renouvellement de contrat, et c'est pas assez loin d'arriver la dernière fois, d'aller revendre Plus belle la vie à TF1. Alors que France 3, encore une fois, a totalement la paternité de ce projet, quoi. C'est de la folie que ça leur appartienne pas.
Mais qu'est-ce qui empêche ça en fait ?
Légalement,
pourquoi ?
Pour favoriser l'émergence
des maisons de production, travailler les gens.
En gros, c'est le lobby du producteur qui s'est super bien débrouillé, mais je crois que la discussion avait déjà prouvé qu'il avait drôlement bien réussi à se défendre.
C'est ce qui a mis en place tout l'écosystème, ce type de réforme. Mais en remettant ça en cause, tu remets tout le financement, tout le système actuel en cause.
Tu penses que le système actuel est un échec total, je suis capable de dire que je suis assez d'accord pour remettre tout en cause de A jusqu'à Z. Mais cela dit, encore une fois, il ne s'agit peut-être pas d'ouvrir fin toutes les vannes, hein. Mais peut-être qu'on peut limiter à 5% du budget total dépensé pour la fiction.
Mais après, on en revient au problème qu'on disait tout à l'heure. Les maisons de production, étant donné qu'elles sont dans la position où elles peuvent mettre que 100 000 euros sur une série à 900 000, c'est qui décide ? C'est celui qui a mis 800 000, donc le diffuseur. Donc, qu'est-ce qui peut imposer le producteur dans ce cas-là ? Rien, à moins qu'il y ait vraiment une relation de confiance entre le diffuseur et le producteur, comme ça peut arriver, heureusement d'ailleurs.
Des gens qui ont compris chacun son métier.
Mais c'est
quoi,
cas à part.
Et du coup, on arrive à des trucs. On rencontre une fois un producteur l'année dernière, sa série qui est passée sur une chaîne cryptée.
ça devient un peu plus
a été un succès, donc il y en a eu moins 4 ou 5 l'année dernière sur Canal+, donc on peut pas trop savoir forcément de qui je parle. Et il me dit, et la série a été un gros succès, et la série a été un gros succès sur DVD, et le producteur me dit, mais les ventes DVD, je touche pas une cacahuète dessus, tout va sur la chaîne. Bah c'est pas normal. Mais c'est normal. C'est normal dans le sens où la chaîne a financé toute la série, si vous voulez. Dans un système tel que celui-là, logiquement, bah, puisque le producteur il a pas dépensé une thune pour tourner le truc, si on fait des bénéfices sur le DVD, il va dans la poche de la chaîne, je suis bien d'accord. Mais dans un système un peu normal, la chaîne elle aurait dû mettre moins d'argent, ouais. Et le producteur il se ferait son beurre sur la vente du DVD. Encore une fois, si jamais tu sais que tu vas pas vendre de DVD, tu vas pas être rentable, bah, putain, tu t'arraches pour que les gens ils ont envie de voir ta série une deuxième fois et l'acheter en DVD. C'est aussi ça qui fait l'émulation et qui fait que tu vas faire de la qualité. Parce que si tu sais que si tu fais pas de la qualité, tu coules, ça motive. Et le système américain est basé sur ça. C'est incroyable, un système aussi libéral où il n'y a pas d'obligation aux États-Unis, qu'il y ait autant de fiction. Bah oui, mais les chaînes, elles payent beaucoup moins que nous. Le producteur, s'il fait pas de la syndication, c'est revendre aux chaînes locales, plus du DVD, plus de l'export, il est... En fait, le système américain des networks a été fondé sur le fait que si ta série atteint pas 100 épisodes, pour le producteur, c'est pas rentable, il perd de l'argent. Il fallait qu'en fait la série atteigne 100 épisodes pour qu'il puisse la vendre suffisamment cher sur le marché de la syndication, c'est les chaînes locales, en rediffusion, pour qu'il puisse combler la différence, le fait que la chaîne elle lui commande que peut-être 60, qu'elle lui paye que 60% du prix de l'épisode, et que du coup, après, s'il atteignait suffisamment d'épisodes, il pouvait vendre suffisamment cher pour rentabiliser. Donc c'est vraiment un système qui incite à prendre des risques intelligents et à forcer la créativité, parce que pour atteindre 100 épisodes, il faut que la série soit bonne, quoi.
Et pour remporter l'adhésion de tout le monde avec ces propos-là, le problème, c'est que depuis tout à l'heure, on prononce des gros mots dans la fiction française. On a dit rentabilité, on a dit industrialisation.
Oui, mais il faut être réaliste.
Mais complètement. Mais le problème, c'est que tu en parles à certains auteurs, c'est des trucs qui leur font s'hérisser les poils sur la tête.
Comment tu expliques
dans un système aussi industrialisé, aussi mercantile que le système américain, tu as autant de qualités qui sortent. Il n'y a pas de secret. C'est comme ça que ça doit fonctionner, c'est pas autrement. La télévision, c'est comme ça. C'est pas un endroit où les auteurs s'exprimeraient sans la peur de l'audimat ou quoi. Non, au contraire.
C'est un point super important, c'est qu'en fait, l'industrialisation n'est pas l'ennemi de la créativité.
Absolument pas.
À la télévision, c'est complètement le contraire.
C'est l'inverse du cinéma.
Vous prenez exactement. En fait, justement,
faut
on a développé
ce
système
côté,
de l'unitaire et du téléfilm en France en disant mais c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des choses créatives, etc. Sauf que c'est pas vrai. Parce qu'un téléfilm, vous devez le vendre à vos téléspectateurs. Si vous faites un téléfilm sur un sujet difficile. Vous voulez faire un téléfilm sur l'avortement, vous devez vendre aux téléspectateurs ce soir sur TF1, venez regarder un téléfilm sur l'avortement, venez regarder notre téléfilm, vous verrez, on
ne dit pas trop avec
une grille de chemin. Et donc du coup soit la chaîne elle fait pas le téléfilm sur l'avortement, soit elle le fait avec Ingrid Chauvin et elle en fait une comédie légère où on parle d'avortement entre la 93e et la 94e minute et le reste on essaie de parler d'autre chose.
Pour dire qu'elle le fait pas parce que sinon
et ça a donné le caractère incolore et inodore sans saveur de la télé française, alors que si vous faites une série, vos gens ils sont habitués à votre série, ils aiment les personnages, ils sont acclimatés, ils vont la voir toutes les semaines. À l'épisode 12, vous pouvez consacrer votre épisode entier à l'avortement, ça passe comme une lettre à la poste.
Ce qui avait été fait sur Clara Scheller. Mais pourquoi ils ont réussi à le faire, à mon avis, c'est surtout parce que c'est une série et parce qu'ils ont réussi à l'installer progressivement.
Donc clairement, à la télévision, l'industrialisation, c'est la créativité, c'est le risque, c'est plus de liberté pour les auteurs, et c'est pas le contraire, mais à ça effectivement, pour réussir à faire rentrer dans
mais
le
c'est ça, mais regarde.
C'est la fin de la première partie de ce podcast. La controverse continue la semaine prochaine.